Je n'oublierai jamais le moment où je me suis agenouillé auprès du corps ensanglanté de la petite Elisabeth Drummond. Des cadavres en 30 ans de police, j'en ai vu des dizaines. Mais, penché au-dessus de cette petite fille massacrée, j'étais bouleversé. C'est à cet instant que je me suis juré de retrouver son assassin.
L'homme bouleversé qui parle ainsi est un policier marseillais, le commissaire Edmond Sébeille. Et sur la scène de crime qu'il vient de découvrir ce 5 août 1952, il se jure de retrouver l'auteur de ce massacre. Il ne sait pas encore que son enquête deviendra une affaire internationale, qui va passionner les Français et les Anglais, diviser une famille et mettre sur le devant de la scène un homme qui n'aura de cesse de clamer son innocence.
Vous écoutez Fait d'hier, le podcast du magazine Femmes Actuelles Senior. Chaque semaine, nous nous replongeons avec vous au cœur des grandes histoires criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Gaston Dominici.
Nous sommes en plein cœur de l'été 1952, à Lurs, un petit village tranquille près de Manosque, dans le sud de la France. Dans la nuit du 4 août, à 1h10 du matin, plusieurs coups de feu retentissent au niveau de la Nationale 96, à deux pas de la Durance. Au petit matin, le brigadier-chef Romanet arrive sur place, en compagnie du gendarme Bouchier. Une voiture anglaise stationne sur le bord de la route. Un lambeau de chair collé sur son pare-choc arrière. Le corps d'une femme repose près du véhicule, face contre terre, pieds nus. Un homme gît de l'autre côté de la route, caché sous un lit de camp. Deux douilles et des cartouches traînent sur le sol, mais ce n'est pas tout. Une fillette est étendue plus loin, au bas d'un talus, couchée sur le dos, vêtue d'un pyjama bleu ciel. Elle est défigurée. Les victimes sont rapidement identifiées. Il s'agit d'une famille de touristes anglais, les Drummond. Le père, Jack, est un célèbre scientifique de 61 ans. Il voyage avec sa femme, Anne, et leur fille de 10 ans, Elisabeth. Ils passent leurs vacances en France et ont décidé, la veille, de bivouaquer à cet endroit. La scène du crime est effroyable. Et même le très détendu commissaire Sébeille, en charge de l'affaire, accuse le coup. Ce sympathique maigret marseillais, lunettes de soleil, accent chantant du sud et cigarette collée aux lèvres, est glacé d'effroi. Jack et Anne Drummond ont été abattus de plusieurs balles de gros calibre. La fillette, elle, a eu le crâne fracassé par une barre de fer ou une crosse de carabine. Le docteur Dragon, le médecin de campagne présent sur les lieux, est formel. La rigidité cadavérique était totale chez les parents. Par contre, elle était nulle pour la petite fille. Le cadavre était mou. Elle est morte la dernière. Elle a rendu son dernier soupir au moins 2 ou 3 heures après. Les policiers ne tardent pas à trouver l'arme du crime. Une carabine cachée au fond de la rivière, toute rafistolée. Pour le commissaire Edmond Sébeille, cela ne fait aucun doute. Elle accuse quelqu'un du voisinage. Aux journalistes, il déclare, triomphant, « L'arme est locale. L'assassin devait être seul. À court de balles, il a résolu d'achever la petite Elisabeth à coups de crosse. »
Le drame horrible qui vient d'ensanglanter la petite ville de Port-Calquier et qui a fait 3 cadavres appelle l'indignation universelle. Toute la population a accompagné au cimetière les restes de la famille Drummond, brutalement assassinée alors qu'elle campait dans les environs. L'enquête, malgré tous les efforts, n'a pas encore abouti. Le paysage garde son secret, la Durance son mystère. Près de la voiture des victimes, on a retrouvé l'arme du crime. Regardez-la bien, le moindre renseignement peut aider à retrouver l'assassin.
Les soupçons se portent très vite sur la ferme voisine, appelée la Grand-Terre. Elle n'est qu'à 100 mètres de mètre du lieu du drame. Elle appartient aux Dominici, une famille de paysans qui possède les terres environnantes. À sa tête règne un patriarche, un authentique chef de clan, Gaston Dominici, 75 ans. D'origine italienne, le vigoureux vieillard a bâti un fief paysan à la force de ses mains. Avec son épouse, Marie, il règne sur une descendance nombreuse, notamment 2 fils, Clovis l'aîné et Gustave le cadet. c'est ce dernier qui a découvert les corps et prévenu la police. Dès le début de son enquête, le commissaire s'intéresse au père, Gaston. L'homme lui fait forte impression. Sa moustache fleurie et ses yeux rieurs masquent une impulsivité doublée d'une ruse méridionale. Le policier en dresse un portrait au vitriol. Gaston Dominici est goguenard, bon enfant, grossier, coléreux, autoritaire et violent. Quand il évoque les victimes, Gaston ne manifeste aucune émotion. Il les appelle même les crevés. Sébeille en est persuadé. Le pater familias est impliqué jusqu'au cou. Mais les convictions ne suffisent pas. À part la carabine, les enquêteurs n'ont aucun élément matériel. La scène du crime est totalement brouillée. Des dizaines de personnes, curieux, voisins, policiers, journalistes, ont foulé les lieux. Les enquêteurs renoncent même à photographier les empreintes de chaussures découvertes sur les rives de la Durance tant on les a piétinées. La plupart des indices sont inutilisables. Pour confondre l'assassin, on ne pourra se fier qu'au récit des témoins. Or, dans cette affaire, aucun n'est vraiment fiable. Durant plusieurs jours, les Dominici sont interrogés sans relâche. Ils maintiennent leur version des faits. Certes, ils ont entendu des coups de feu et découvert les corps, mais rien de plus. N'ont-ils pas entendu des cris ? Non, aucun. La presse parle déjà d'un mur du silence. Le vieux Gaston s'insurge. « Nous ne sommes que des honnêtes gens sur qui on fait peser les plus atroces soupçons. » Le 9 août, Lucien Duc, un témoin, affirme avoir aperçu un rôdeur une demi-heure avant le crime. « J'ai vu un homme au visage effrayant. Il se tenait sur le bord de la route, légèrement en retrait. Il m'a paru grand, de corpulence moyenne et avait les cheveux noirs. » La description ne correspond absolument pas à Gaston Dominici. Un autre témoin, Aristide Panayotou, étaye cette version. Cette nuit-là, il a lui aussi aperçu un individu louche. L'affaire prend très vite de l'ampleur. Outre-Manche, on exige la vérité. En France, les partisans du clan Dominici et leurs accusateurs s'écharpent par journaux interposés. Il faut dire que les Dominici sont assez proches des communistes et des anciens résistants. Tout le tissu politique local fait front pour protéger les siens. L'enquête piétine. Raillé par la presse, sommé d'obtenir des résultats, le commissaire Sébeille doit finalement prendre des vacances forcées. Mais les investigations continuent. Le 13 octobre, après 3 mois d'une intense pression policière, Gustave Dominici finit par craquer. Il avoue aux enquêteurs que lorsqu'il a aperçu le corps de la petite Elisabeth ce matin du 5 août, la fillette vivait encore. Elle râlait faiblement et son corps était agité de soubresauts. Pourquoi donc n'a-t-il rien tenté pour l'aider ? Et pourquoi a-t-il gardé le silence aussi longtemps ? Il est incapable de donner des explications satisfaisantes. On l'inculpe alors pour non-assistance à personne en danger et il est condamné à 2 mois de prison ferme. Les semaines puis les mois s'écoulent. L'identité de l'assassin demeure un mystère. C'est un an plus tard, en novembre 1953, que l'enquête bascule. Le commissaire Sébeille, à nouveau en charge du dossier, a relancé les interrogatoires. Et il fait une annonce fracassante. Gustave, le fils cadet des Dominici, vient de déclarer aux enquêteurs « C'est mon père qui a tué les Anglais. Il me l'a dit lui-même vers 4 heures du matin. » Son frère, Clovis, confirme ses accusations.
Ses deux fils, Gustave d'abord, Clovis ensuite, qui avait fini par parler après 15 mois de silence, avait montré dans une grange de la Grand-Terre la place où le père était allé décrocher l'arme avec laquelle il allait abattre la famille Drummond et qu'il avait ensuite jeté dans un trou de la Durance.
Le vieillard est placé en garde à vue. Il est cuisiné toute la nuit. Le lendemain, la police annonce que Gaston est passé aux aveux.
Voici l'assassin. Gaston Dominici, le grand-père, a avoué son crime.
La cause du massacre ? Une crise de jalousie qui a dégénéré. Selon sa déposition, Gaston rôdait autour de la ferme, carabine à la bretelle, en quête d'un blaireau qui menaçait ses volailles. Il a aperçu Lady Anne et s'est approché. Elle lui aurait alors proposé une relation sexuelle et son époux les aurait surpris sur le fait. Le ton est monté et Gaston, furieux, a tiré sur l'Anglais avant de massacrer le reste de la famille. Le mobile serait donc une histoire de fesses. Immédiatement, les commentaires vont bon train et les rancœurs se déchaînent. On dit de Gaston qu'il est un ivrogne, qu'il est libidineux. Les journalistes le surnomment le bouc lubrique, le sanglier des basses Alpes. Le commissaire s'éveille, jubile. Depuis le début, c'est lui qu'il soupçonne. Peu de temps après les aveux, le policier organise une reconstitution du crime en grande pompe.
Malgré les routes barrées, c'est devant une foule où l'on reconnaissait Paul Maillet, l'un des premiers témoins, que Gaston Dominici a été ramené à la Grand-Terre pour la reconstitution de l'effroyable drame. Sous la direction du commissaire Sébeille, autour de la voiture des Drummond ramenée pour la circonstance, on revoyait se dérouler les phases du crime. On revoyait Gaston Dominici faire les gestes de la nuit tragique.
Sous l'œil attentif des enquêteurs, Gaston Dominici rejoue le drame de la nuit du 4 août. La tension est à son comble. Il tente même de se jeter du haut du pont qui surplombe la route. Des officiers de police le ceinturent et le retiennent in extremis. Cette tentative désespérée n'est-elle pas le signe de sa culpabilité ? Tout semble clair. Gaston Dominici va être inculpé et condamné. Seulement voilà. 3 semaines plus tard, coup de théâtre. Le vieil homme revient sur ses déclarations et affirme qu'on lui a soutiré des aveux sous la contrainte. Commence alors un époustouflant feuilleton judiciaire entre Gaston et ses deux fils. Sous l'œil ahuri des enquêteurs, le clan se disloque et la haine apparaît au grand jour. Gaston crie à la trahison. Il accuse Clovis de mentir et le dénonce comme le vrai coupable. Gustave, de son côté, multiplie les incohérences. Il accuse son père puis clame son innocence. Il changera 4 fois de version au cours de l'instruction. Son épouse Yvette ajoute à la confusion. Elle affirme que la carabine, retrouvée dans la Durance, appartient à Clovis, pas au vieux. Et puis il y a ce neveu de Gustave, Roger, 16 ans au moment des faits. Il avait l'habitude de marauder avec son oncle durant la nuit. Les enquêteurs l'interrogent, mais l'adolescent semble incapable de la moindre sincérité. Il modifie constamment ses dires et ment sur tout, même sur des détails insignifiants et faciles à vérifier, à tel point que les policiers le suspectent à son tour. Et s'il avait été présent, lui aussi, la nuit du crime ? Finalement, ils abandonnent cette piste et se contentent de l'interroger en tant que témoin. L'enquête n'ira pas plus loin et Gaston est envoyé aux assises.
Ici Frédéric Potcher qui vous parle du palais de justice de Digne. Le procès du vieux Gaston Dominici a commencé à 9h comme prévu et nous voyons paraître l'accusé. Cheveux blancs, crâne rond, œil merveilleusement vif. L'interrogatoire commence alors vers 10h30 et le vieux se lève aussi vivement que le ferait un jeune homme. Le président Bousquet rappelle les étapes de cette vie de paysan dur, obstiné, économe. Le vieux dit, économe moi, je comprends. Rusé, mais dites, monsieur le président, ça ne va pas quand on est imbécile.
Le 17 novembre 54, le procès du siècle s'ouvre au palais de justice de Digne. Il durera 12 jours. Le patriarche, endimanché, impressionne par sa stature. Il est prêt à tout pour prouver qu'il n'a pas tué la famille Drummond. Face au président Bousquet, qui est convaincu de sa culpabilité, Gaston se défend avec vivacité. Le magistrat le confronte aux dénonciations de Gustave et Clovis. Ce serait ignoble que deux fils se liguent pour accuser leur père. Gaston répond avec tristesse. Ignoble. Vous avez raison. C'est ignoble. Oubliez le monstre de l'URSS. La salle prendrait presque en pitié ce vieillard blessé. Mais l'accusation ne lâche rien. Le président rappelle à Gaston ses propres aveux. « Vous avez déclaré au commissaire Sébeille, le 13 novembre 1953, « Je vais te faire plaisir. C'est moi qui ai tué les Anglais. C'est un péché d'amour. » Silence glacial dans l'assemblée. Gaston s'affaisse. Il se contente de répéter qu'au moment de ses déclarations, il était comme fou. On l'aurait frappé, drogué. La cour balaye ses allégations. Alors, le vieux Dominici se dresse dans le box des accusés. Il reproche à l'inspecteur qui l'a interrogé de lui avoir suggéré cette histoire de relation sexuelle. L'enquêteur confirme, avec réticence, qu'il lui a en effet soufflé l'idée. Le doute s'installe dans l'assemblée. Les aveux de Gaston sont-ils vraiment aussi solides que le prétend l'accusation ? Vient enfin la confrontation entre le père et ses fils. Devant un public médusé, Gaston s'en prend à Clovis. Lui, je le renie, je le jette de ma famille, je lui retire mon nom. Le président de la cour n'intervient pas et laisse le clan Dominici se déchirer. Augusta, l'une des filles de Gaston, injurie son frère. Lâche, menteur, salaud! Gustave monte à la barre, semble hésiter à nouveau. Le président s'emporte. Avec moult détails, vous avez accusé votre père d'un triple assassinat. Aujourd'hui, vous venez prétendre que vous avez tout inventé? Votre lâcheté dépasse les bornes. Puis, l'avocat général prend la parole. Il dépeint Gaston comme un maître implacable. À 10 ans, il régnait sur son chien. À 20 ans, sur sa femme, plus tard sur ses enfants. Et il a confessé son crime dans une totale indifférence. L'avocat général réclame la peine capitale. Son réquisitoire sera entendu.
Le procès Dominici en arrive à la fin. Gaston Dominici reste sans faiblesse. Et dimanche après-midi, pendant que sous la pluie battante, la foule attendait, le défenseur de Dominici, Maître Polak, tentait dans une vigoureuse défense de détruire l'effet de réquisitoire de l'avocat général. Tâche vaine. Le jury répondait oui aux 7 questions posées. Gaston Dominici doit payer de sa tête le crime de l'ours qui n'a pas fini cependant de remuer les consciences et les passions.
Le 28 novembre 1954, Gaston Dominici, 77 ans, est condamné à mort. Nombreux sont ceux qui contestent ce verdict. Dans cette affaire, trop d'éléments restent troubles. Pour eux, la justice a condamné Gaston sans preuve matérielle. Je ne dis pas que Gaston Dominici n'est pas coupable, résumera Jean Giono qui suit le dossier. Je dis qu'on ne m'a pas prouvé qu'il l'était. La peine de Gaston est commuée en prison à vie, et en 1960, il est gracié par le général de Gaulle.
Est-ce un épilogue au drame de l'URSS qui fit couler tant d'encre? Après 7 ans passés en prison à la suite de sa condamnation, Gaston Dominici, gracié, a été ramené par son fils Gustave à la ferme de la Grand-Terre. Il y a retrouvé sa femme, la Sardine, entre les murs qui furent le décor du drame affreux qui coûta la vie à la famille Drummond. Le vieillard qui signa des aveux formels dénie aujourd'hui toute participation au meurtre. Mais le jour de son retour, des mains anonymes ont fleuri au cimetière de Fort-Calquier les tombes du père, de la mère et de l'enfant assassiné.
Il mourra dans un hospice de Digne, à l'âge de 88 ans, sans jamais cesser de clamer son innocence. Depuis, l'affaire a suscité bien des hypothèses. On avance que le patriarche se serait accusé pour couvrir des membres de sa famille, ou bien qu'il s'agit d'un accident qui aurait dégénéré. L'un des scénarios les plus célèbres est celui d'Alain Dominici, le fils de Gustave. Il prétend que Jack Drummond appartenait en réalité au service secret britannique et qu'il a été assassiné par le KGB. Malgré la campagne qu'il mène depuis 20 ans pour prouver l'innocence de son grand-père, la justice a toujours refusé de rouvrir le dossier, faute d'éléments solides. Le mystère demeure entier. À ce jour, la plupart des acteurs du drame sont morts. Et les eaux de la Durance ont gardé leur secret.
Ce texte, écrit par Thibaut Panis et adapté par Diane Mottez et Anne-Vincent Cini, a été enregistré par Diane Mottez. Mixage de Lucas Vibo.
Vous avez écouté Fait d'hier. Nous attendons vos réactions et vos commentaires. N'hésitez pas aussi à nous noter sur les plateformes et à partager avec votre entourage. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle affaire criminelle.